Nous, c'est parti pour le 18-20, format classique ce soir. Ravi de vous retrouver et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Pour ouvrir ce 18-20 comme tous les jours, le journal d'Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce jeudi commence avec un homme prisonnier de son corps et d'une bataille juridique interminable.
Un chemin de croix judiciaire et peut-être la délivrance pour Vincent Lambert. Le tribunal administratif a rendu un jugement qui, pour la première fois, reconnaît la volonté du patient en état végétatif depuis des années de ne pas être maintenu en vie ainsi. Nouvelle révélation contre Alexandre Benalla. Mediapart publie des enregistrements audio où l'on apprend qu'il a rompu son contrôle judiciaire et qu'il a fait affaire avec un oligarque russe proche du président Poutine, mais aussi de la mafia. Au Venezuela, le héros de l'opposition Juan Guaido présente son programme comme chef d'État, un affront de plus à son adversaire, le président Maduro. Lui aussi convoque la presse au même moment. L'Europe a trouvé le moyen pour contourner les sanctions américaines pour faire du commerce avec l'Iran, un système circulaire avec des entreprises écrans. Et puis il fait froid en ce moment, mais pas autant que sur la Lune où la nuit, les températures chutent encore plus que ce que l'on pensait. La neige et le verglas reviennent en France donc. 14 départements vigilance, orange, le point météo avec Élodie Callac à la fin de ce journal.
À 18h15, un jour dans le monde, Amélie, et si les GAFA finissaient par payer des impôts, à quoi ils ressemblent? Cet accord mondial que l'OCDE met sur la table, est-ce qu'on est vraiment en train de supprimer les angles morts des fiscalités? Est-ce que l'opinion mondiale sur les inégalités fiscales, le fait que collectivement nous tolérons de moins en moins que les très riches entreprises ne payent pas d'impôts, est-ce que tout cela fait que finalement ces taxes seront payées par les GAFA? On en parle avec le premier invité d'un jour dans le monde. Nous allons aussi au Venezuela ce soir, mais en passant par l'Espagne, je vais vous emmener rencontrer les plus de 20 000 Vénézuéliens qui sont réfugiés en ce moment à Barcelone. Et puis 19h20, le téléphone sonne, on parle de choc ce soir, de plaquage de charge, on parle rugby, on parle commotion, 4 morts en moins d'un an, 4 jeunes gens. Ça interroge le rugby, est-ce que ce sport est devenu trop dangereux, trop rude, trop violent? La fédération prend tout cela très au sérieux et on en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il est dans un état végétatif depuis 10 ans, mais pour la première fois, la justice reconnaît sa volonté de mourir.
Étape cruciale dans le feuilleton judiciaire de Vincent Lambert. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne confirme l'obstination déraisonnable à l'égard du patient et confirme aussi sa volonté de ne pas être maintenu ainsi en vie. Bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
Alors Vincent Lambert, au cœur d'une bataille familiale, judiciaire, éthique, symbole du débat sur la fin de vie. Là, c'est un pas de plus vers l'arrêt des soins au CHU de Reims?
Eh bien, on peut considérer effectivement qu'on se rapproche d'une procédure d'arrêt des soins. Alors, ce que dit le tribunal, c'est que le maintien des soins et des traitements est bien une obstination déraisonnable. Il s'agit de l'alimentation et de l'hydratation artificielle qui seules maintiennent Vincent Lambert en vie. Autre point très important, c'est effectivement pour la première fois la reconnaissance de sa volonté de ne pas être maintenu en vie, dans l'hypothèse où il se trouverait dans l'état qui est le sien depuis maintenant 10 ans. On le sait, puisque c'est au cœur de la bataille entre ses parents et son épouse, il n'y a pas d'écrit de Vincent Lambert. Mais le tribunal entérine le témoignage de son épouse. Il lui avait clairement exprimé sa volonté de ne pas être maintenu en vie en cas de grande dépendance. Ça signifie aussi que si le médecin qui suit actuellement Vincent Lambert et qui s'est prononcé pour un arrêt des soins devait changer, eh bien ces volontés du patient restent établies. Alors est-ce la fin de l'histoire? Pas encore, car les parents avaient déjà annoncé qu'ils feraient appel devant le Conseil d'État. Un Conseil d'État qui s'est déjà prononcé en 2014 pour l'arrêt des soins. On ne voit pas pourquoi il dirait le contraire la prochaine fois. Et à ce moment-là, ce sera peut-être alors la fin de l'histoire.
Daniel Messerger, notre spécialiste santé. Le verdict est en train de tomber au procès du 36 Quai des Orfèvres. Les deux policiers sont jugés coupables. Deux policiers qui étaient accusés de viol par une touriste canadienne. Les agents n'ont cessé de clamer leur innocence tout en modifiant au fur et à mesure leur version des faits. On y revient dans le journal de 19h, donc sur le verdict. Jugés coupables, ces deux policiers du 36 Quai des Orfèvres. L'épilogue également du scandale du mur des cons. L'ex-présidente du syndicat de la magistrature a été condamnée. Françoise Martre écope de 500 euros d'amende avec sursis pour le préjudice causé à un père de victime. Mais elle est relaxée s'agissant des hommes politiques qui l'a poursuivi. 9 personnalités de droite et d'extrême droite comme Patrick Balkany ou Éric Woerth pour des motifs de forme.
Les soupçons continuent de s'accumuler au-dessus de la tête d'Alexandre Benalla.
Oui, dernière salve signée Mediapart. Le site d'information met en ligne aujourd'hui des enregistrements audio. La preuve, selon Mediapart, que l'ancien chargé de mission de l'Élysée a gardé des liens importants avec la présidence après son licenciement pour les violences du 1er mai. Corinne Audouin, bonsoir.
Bonsoir Amélie.
Alors d'autres extraits le mettent en cause sur le plan judiciaire.
Oui, ce que publie Mediapart aujourd'hui, ce sont des extraits d'une conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Crase. Tous deux sont mis en examen, notamment pour violence volontaire lors des manifestations du 1er mai. Or, selon nos confrères de Mediapart, cette rencontre se passe le 26 juillet, 4 jours après leur mise en examen et le contrôle judiciaire qui leur interdit de se rencontrer. Dans cette conversation à bâton rompu, l'ex-monsieur sécurité de l'Élysée se targue d'avoir le soutien du patron, comprenez, Emmanuel Macron. Alors les deux hommes devraient être convoqués par les juges pour s'expliquer. Si cette violation est avérée, une révocation de leur contrôle judiciaire est possible, ainsi que leur placement en détention provisoire. Et puis, dans cette conversation, les comparses s'inquiètent des conséquences de l'affaire sur leur business. La société de sécurité de Vincent Crase avait signé un contrat avec un oligarque russe proche de Poutine. Contrat signé quand Vincent Crase était encore en charge de la sécurité du parti LREM et dans lequel Alexandre Benalla serait intervenu alors qu'il travaillait toujours à l'Élysée. Dans leur conversation, Alexandre Benalla conseille à Vincent Crase de disparaître du montage financier en utilisant un homme de paille pour mettre l'argent à l'abri. On va prendre l'argent de la boîte, on va s'éclater, dit Alexandre Benalla à Vincent Crase qui s'inquiète. Conflit d'intérêts, montage financier hasardeux, tout cela pourrait aussi intéresser la justice. Contactés, les avocats d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase n'ont pas souhaité réagir.
Merci beaucoup Corinne Audouin. L'actualité judiciaire décidément bien fournie ce soir en Belgique, moment clé du procès Nemouche, le témoignage des proches des époux Riva, deux des victimes de la tuerie du musée juif de Bruxelles en 2014. Les époux Riva, omniprésents dans les débats car ils sont désignés par les avocats de Mehdi Nemouche comme des agents du Mossad, victimes d'une exécution ciblée, théorie pour dédouaner leurs clients, théorie complotiste, s'indignent les parties civiles. Le compte-rendu d'audience à Bruxelles est signé Angélique Bois.
On a beaucoup de mal à être ici. La voix est fluette. Ayolette et Chira avaient 15 et 17 ans quand leurs parents ont été tués d'une balle dans la tête. On essaye de se soutenir l'une et l'autre, dit la cadette. C'est dur. Sans un regard pour Mehdi Nemouche, les deux jeunes femmes, visage fin, longue chevelure brune, racontent leur vie d'avant. La présidente fait défiler des photos de ce bonheur perdu, les voyages en famille, les anniversaires. Lourd silence dans la salle d'audience. Les deux orphelines ne voulaient pas témoigner, la cour a insisté. Pour la présidente, les jurés doivent savoir ce qui a été volé aux parties civiles. Mehdi Nemouche écoute, mais détourne le plus souvent la tête, ostensiblement. Il l'a redit ce matin dans une longue déclaration. Il n'y est pour rien dans la tuerie. « Je n'ai également rien à voir avec les attentats de Paris et Bruxelles », a-t-il ajouté d'une voix forte. « Dieu ne permet pas de tuer des innocents ». Un long monologue de 8 minutes dans lequel il condamne aussi le vol de documents mardi dans le bureau d'un avocat de ce procès. Vol assorti de menaces. « Je n'ai rien à voir avec ce cambriolage ». Toujours aucune explication, en revanche, sur les armes du crime. Un revolver et un fusil d'assaut retrouvés lors de son arrestation à Marseille dans son sac. Au palais de justice de Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Un an de prison si vous manifestez avec une cagoule. L'Assemblée nationale a voté la nuit dernière un délit de dissimulation du visage dans les rassemblements dans le cadre de la proposition de loi anti-casseurs. Jusqu'à présent, on n'en courait qu'une amende. La création de ce délit est critiquée vivement par la gauche. Les députés n'ont pas terminé l'examen des amendements cette nuit. Ils doivent trouver de nouveaux créneaux. Le vote solennel était prévu mardi prochain. La gare Montparnasse, encore une fois, à l'arrêt. Nouveaux incidents électriques avec en conséquence des retard en pagaille jusqu'à 4 heures. La SNCF demande aux voyageurs entre Paris et tout l'arc atlantique de la Bretagne au sud-ouest de la France de reporter leur trajet à demain. Certains trains sont déroutés vers la gare d'Austerlitz.
Il est 18h09 sur France Inter à l'étranger. Le président autoproclamé du Venezuela présente son projet aujourd'hui.
Discours très attendu par les partisans de Juan Guaido. Une prise de parole pour s'affirmer face à son adversaire, le président Nicolas Maduro, dont il rejette l'élection. Le jeune homme politique, 35 ans, doit proposer des solutions pour sortir le pays pourtant riche de pétrole, de son naufrage économique et social. Olivier Poujade est notre envoyé spécial à Caracas.
Plus d'un millier d'étudiants, de partisans de l'opposition, une université centrale du Venezuela surchauffée pour entendre les mesures économiques d'urgence de Juan Guaido. Le président par intérim autoproclamé n'a pas encore parlé, mais ses conseillers se succèdent à la tribune et donnent déjà les grandes lignes de ce plan pays. Numéro 1, sortir de l'urgence alimentaire dans laquelle se trouve 48% de la population, instaurer un programme combinant études et nourriture pour la jeunesse vénézuélienne. Deuxième point, une politique fiscale incitant les capitaux étrangers à investir pour relancer un appareil productif au point mort et détruit, selon eux, par le pouvoir en place. Un pouvoir hautement corrompu qu'ils accusent d'avoir détourné l'argent des Vénézuéliens. Juan Guaido devrait annoncer également la création d'un bureau national de récupération de l'argent public, des mesures encore très hypothétiques tant que la situation politique ici restera bloquée et que le contrôle de l'administration restera entre les mains de Nicolas Maduro. Caracas, Olivier Poujade, France Inter.
Et puis les deux journalistes français de l'émission Quotidien sur TMC arrêtés ont été libérés, annonce cet après-midi l'émission. Ils vont revenir très bientôt à Paris. La presse étrangère, pas vraiment la bienvenue donc pour couvrir ces événements. Trois autres reporters de l'agence espagnole EFE ont aussi été interpellés. Deux Chiliens ont été expulsés du pays. Carlos Ghosn se confie à la presse hier à un journal japonais, aujourd'hui à l'AFP et aux Échos. Discours offensif, je veux me battre pour rétablir ma réputation, a-t-il déclaré en anglais dans un parloir de la prison où il est retenu depuis plus de deux mois. Est-ce un complot, un piège? Il n'y a aucun doute là-dessus, martèle l'ancien patron de Renault-Nissan. L'Europe et l'Iran ont-ils trouvé la feinte pour contourner les sanctions américaines? Depuis la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien, les États-Unis ont rétabli le blocus sur le pays. Mais la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni n'ont pas l'intention d'en rester là pour continuer à commercer avec l'Iran. Elles ont mis au point un montage. Expliquez-nous, Louise Baudet, bonsoir.
Bonsoir, Amélie.
Expliquez-nous comment ça fonctionne. On n'est pas loin du troc, c'est ça?
Oui, imaginez, Amélie, une opération pistache contre vaccin. Une entreprise iranienne vend à un client allemand les pistaches. Parallèlement, une entreprise allemande vend à un client iranien les vaccins. Mais attention, aucun argent ne traverse la frontière. La transaction se fait d'un côté en Iran. En gros, l'acheteur de vaccins règle l'addition au vendeur de pistaches. Et puis même chose en Allemagne, l'importateur de pistaches paie l'exportateur de vaccins. Vous avez tout compris?
Oui, à peu près. Oui.
Bon, le but de l'opération, pour ceux qui n'auraient pas tout compris, c'est d'éviter tout flux financier entre les deux pays, sachant que de toute manière, plus aucune banque ne s'y risque, par peur des sanctions américaines. Et l'outil qui offre cette solution de paiement, c'est Instex, une entreprise écran enregistrée en France. Elle sera opérationnelle dans plusieurs mois, concède le Quai d'Orsay, et le volume des échanges couverts devrait rester modeste. Échanges en matière d'agroalimentaire, de santé, humanitaire, entreprises visées, les PME, bref, le pétrole iranien, secteur clé, n'est pas franchement concerné. C'est donc insuffisant, selon Téhéran, qui salue toutefois une première étape, et c'est là l'essentiel, car le but de l'opération est avant tout politique. L'Europe veut montrer sa bonne volonté et prouver à l'Iran que cela vaut la peine de continuer à respecter ses engagements sur le nucléaire, en dépit du blocus américain.
Merci beaucoup, Louise Baudet, on a tout compris. Les parlementaires britanniques, eux, sont privés de vacances en février. Le gouvernement a décidé de supprimer leurs vacances pour qu'ils adopte les lois en vue du Brexit, une manière de réaffirmer que Londres tient à la date du 29 mars. Et puis on revient sur cette information, le verdict au procès du 36 Quai des Orfèvres. Les peines sont tombées et donc les deux policiers sont condamnés pour viol en réunion. Ils sont condamnés à 7 ans de prison ferme, c'est conforme aux réquisitions. Il était une figure de la gauche à Paris, Georges Sarre est mort à 83 ans, ancien inspecteur des PTT. Il adhère à la SFIO en 64 et deviendra un poids lourd du Parti Socialiste. Il a été secrétaire d'État au transport et a créé notamment le permis à points. Et avant de passer à la météo en France, prenons la température de la Lune. Les Chinois continuent d'explorer sa face cachée avec la sonde Chang'e 4 posée là-bas depuis le 3 janvier. Sophie Bécherel, bonsoir.
Bonsoir.
Notre spécialiste de l'espace et au-delà. Alors la découverte que nous révèlent les Chinois, c'est que les nuits sont bien plus froides que prévu là-haut. Ça pose des questions sur la résistance de la sonde.
Oui, au sortir d'une longue nuit de 14 jours, c'est la durée d'une nuit sur la Lune, Chang'e 4 a repris le contact avec la Terre et en effet, il a pris un sacré coup de froid, moins 190 degrés.
Ah oui.
C'est 20 degrés en moins que la minimale déjà enregistrée par le passé lors des missions américaines. Les Chinois ne s'attendaient pas à une telle extrême. À titre de comparaison sur Terre, la température la plus froide, et Elodie Calac ne me contredira pas, elle est à côté de moi, la température la plus froide jamais enregistrée, c'est moins 89, sur Mars, moins 112. L'atmosphère pour ces deux planètes joue le rôle de couverture, mais sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Comme en plein jour, il fait à l'inverse très chaud sur la Lune, plus de 100 degrés. Pour les missions Apollo, on avait fait attention à ce que les astronautes atterrissent lorsque le Soleil n'était pas au zénith. Même habillé d'un scaphandre ou de moon boots, évidemment, il fallait faire attention. Pour des instruments électroniques, ce grand froid n'est pas recommandé. À bord de Chang'e 4, il y a donc un système de chaufferette. A-t-il suffi pour protéger le radar, les caméras, le mini-radiotélescope? Peu bavard, depuis le lever du jour ce matin, l'agence spatiale chinoise s'est contentée de dire « les instruments fonctionnent et sont stables ». Quant au rover, on verra si ses roues n'ont pas gelé. En cas d'échec, pas d'inquiétude, une autre mission Chang'e 5 est déjà programmée pour la fin de l'année.
Merci beaucoup Sophie Bécherel. On a retenu, hein, Fabienne, il faut se couvrir.
J'allais dire, on ne sait pas comment s'habiller.
billets quand on va sur la Lune. Ça va être un problème pour les vols touristiques quand même.
Effectivement.
Bah, attendez, il faut régler ça très vite. Allez, Amélie, merci. À tout de suite, évidemment, dans Un jour dans le monde.
On vient sous les radars. La justice au Liban refuse de censurer une émission qui fait parler des lesbiennes, malgré les pressions des religieux. On parlera également de la messe la plus longue de l'histoire, peut-être aux Pays-Bas. Elle a duré plus de 3 mois. Et puis l'Australie, elle remet un prix littéraire prestigieux à un auteur iranien dont elle refuse l'entrée sur son territoire.
On verra ça ensemble. Donc il sera autour de 18h37. À tout de suite. Ce soir, on essaie de comprendre si enfin les GAFA vont payer des impôts. Vaste serpent de mer, me direz-vous. Oui, mais l'OCDE vient peut-être de faire une petite révolution. On verra ça ensemble. Nous sommes en Espagne avec les réfugiés vénézuéliens ce soir également. Et puis, en deuxième heure, le téléphone sonne alors que commence le tournoi des Six Nations. On va parler rugby ensemble avec cette question. Est-ce que ce sport, qui est un sport de combat, est devenu trop dangereux? 4 morts en moins d'une année, des commotions après des plaquages au point que la fédération s'en inquiète. C'est très sérieux. Faut-il revoir certaines règles? Faut-il redéfinir le jeu? À tout de suite pour en parler au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Élodie Calac, encore de la neige au menu du jour.
Oui, il neige en ce moment de la Haute-Normandie vers la région parisienne. Des flocons peuvent aussi se mêler à la pluie dans Paris. 8 départements sont en vigilance orange de la Haute-Normandie vers l'ouest et le nord de la région parisienne, le nord de la Seine. Et puis, ça dure ce soir et cette nuit. La neige va traverser rapidement ces régions. On pourrait avoir 2 à 5 cm, parfois 8, plutôt moins sur les Yvelines, sur le Val d'Oise, 1 à 3 cm. Soyez prudents, routes et trottoirs sont glissants. De la neige, on en a aussi sur les Alpes avec du vent fort. Et là, 5 départements sont en vigilance orange pour les avalanches.
Sinon, ce mauvais temps, on le retrouve dans l'Est demain.
Oui, de la pluie, parfois forte sur la Corse du Sud, placée en vigilance orange pour la journée de demain. Encore de fortes chutes de neige et du vent sur les Alpes. Et puis ailleurs, quelques averses, plus nombreuses et orageuses sur la façade ouest. L'ambiance sera plus douce, quelques gelées tout de même près des frontières du Nord le matin. Mais l'après-midi, on aura souvent 3 à 10 degrés et jusqu'à 12 à 16 de l'Aquitaine à la Méditerranée.
Et Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. À tout à l'heure après 19h.